chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant prêcher la Bible telle qu'elle est. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et notre titre sera « Rétablir la relation créateur-créature ». Il est dit dans le psaume 57, verset 12, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Chers amis, c'est une aberration de dire que l'ordre dans la nature dépend de relations appropriées. Pour arriver à une harmonie, chaque chose doit être à sa place par rapport à une autre. Dans la vie humaine, il n'en est pas autrement. J'ai suggéré dans les études précédentes que la cause de toute notre misère humaine, c'est la désintégration radicale des valeurs morales, un manque d'harmonie dans nos relations avec Dieu et avec le prochain. Car quelle qu'ait pu être la chute qui était terrible, elle constitua très certainement un net changement dans la relation de l'homme avec son Créateur. L'homme adopta vis-à-vis de Dieu un changement d'attitude et ce faisant, il a détruit la relation créateur-créature dans laquelle, à son insu, résidait son vrai bonheur. Le salut est essentiellement le rétablissement de la véritable relation entre l'homme et son Créateur, donc un retour à la normale dans la création créateur-créature. Une vie spirituelle satisfaisante commencera par un changement complet dans la relation entre Dieu et le pécheur, non pas un simple changement légal, mais un changement conscient et vécu influençant la nature entière du pécheur. Le rachat par le sang de Jésus rend possible un tel changement sur le plan de la justice et l'œuvre du Saint-Esprit le rend satisfaisant sur le plan émotionnel. La parabole du fils prodigue illustre parfaitement cette dernière phrase. Rappelez-vous le jeune homme, il avait amoncelé sur lui une montagne de problèmes en abandonnant la place qui était normalement la sienne en tant que fils. Au fond de sa réintégration n'était rien d'autre que le rétablissement de la relation père-fils qui avait existé depuis sa naissance et qui avait changé temporairement uniquement à cause de sa rébellion coupable. Cette histoire passe sous silence l'aspect légal de la rédemption, mais rend merveilleusement clair l'aspect vécu du salut. En déterminant ce que sont des relations, nous devons commencer par un point de départ. Il doit y avoir quelque part un centre fixe à partir duquel tout se mesure, où la loi de la relativité n'entre pas en ligne de compte, où nous pouvons dire « cela est, est, cela est, car Dieu est » et ne pas faire de concessions. Un tel centre, eh bien c'est Dieu. Quand Dieu voulut faire connaître son nom à l'humanité, il ne put rien dire de mieux que « je suis ». Quand il parle à la première personne, il dit « je suis ». Quand nous parlons de lui, nous disons « il est ». Et quand nous adressons à lui, quand nous nous adressons à lui, nous, eh bien, nous disons « tu es ». Tout et tous se mesurent donc à partir de ce point-là. « Je suis celui qui suit », nous dit notre Père Céleste, « et je ne change pas ». De même que le navigateur détermine la position de son bateau en prenant le soleil comme point de repère, ainsi nous pouvons déterminer notre santé morale en regardant à Dieu. Nous devons donc commencer avec Dieu. Nous ne sommes pas sur la bonne voie seulement et uniquement que quand nous nous trouvons dans une bonne position vis-à-vis de Dieu, et nous sommes surtout sur la mauvaise voie tant et aussi longtemps que nous occupons toute autre position. Beaucoup de nos difficultés proviennent du fait que, en tant que chrétiens qui cherchons Dieu, nous ne voulons pas prendre Dieu tel qu'il est et régler notre vie sur lui en conséquence. Nous voulons absolument le changer et l'amener à nous rassembler. La chair s'insurge contre la rigueur de la sentence inexorable de Dieu et supplie comme Agag pour un peu de miséricorde, pour un peu d'indulgence pour ses voies charnelles. Mais cela ne sert à rien. Nous ne pouvons prendre un bon départ dans la vie qu'en acceptant Dieu comme il est et en apprenant à l'aimer pour ce qu'il est. Au fur et à mesure que nous avancerons dans une meilleure connaissance de notre Dieu, nous serons envahis par une joie inexprimable en découvrant que Dieu est exactement ce qu'il est. Certains des moments les plus exaltants que nous pouvons connaître seront les moments passés en admiration révérencieuse devant la Trinité divine. Pendant ces moments bénis, vraiment bénis de contemplation, l'idée même que Dieu puisse changer serait trop pénible, beaucoup trop pénible à supporter. Alors commençons donc par le commencement. Dieu est à la base de tout. Il est au-dessus de tout et il est par-dessus tout. Il y a Dieu, premier par ordre séquentiel, premier en rang et en position, exalté en dignité et honneur. Celui qui existe par lui-même a donné la vie à l'être à toute chose, et toute chose existe par lui et pour lui. Tu es digne, est-il dit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es seul digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Die Offenbarung, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Toute âme appartient à Dieu et existe par son bon plaisir. Dieu étant qui et ce qu'il est, et nous étant qui et ce que nous sommes, la seule relation qu'il soit possible de concevoir entre lui et nous, c'est, de son côté, une relation du Seigneur à part entière, et de notre côté, une relation de sujet. Nous lui sommes donc redevables de tout l'honneur qu'il nous est humainement possible de lui donner. Et quand nous ne lui donnons pas, nous en éprouvons un chagrin perpétuel. S'attacher à Dieu, cela comporte l'effort d'amener notre personnalité entière à devenir conforme à la sienne. Et ceci, non au seul niveau de la justice divine, mais également au niveau de notre vécu. Je ne fais pas allusion ici à l'acte de justification par la foi en Christ. Je parle d'exalter Dieu de plein gré dans la position qui lui revient au-dessus de nous et de placer volontairement notre être tout entier à ce rang de soumission révérencieuse comme il convient à la culture dans sa relation avec son Créateur. Oui, en effet, dès l'instant, chers amis, où nous décidons de persévérer dans notre résolution d'exalter Dieu par-dessus tout, eh bien nous quittons la scène du monde. Oui, nous nous découvrirons en désaccord avec les voies du monde, et cela de plus en plus, et au fur et à mesure que nous progresserons dans la voie sainte. Nous acquérons ainsi une vision nouvelle des choses, une psychologie nouvelle et différente se formera en nous, un pouvoir nouveau viendra nous surprendre par ses élans et ses effets. Notre rupture avec le monde sera le résultat direct de notre changement de relation avec Dieu. Car le monde de l'homme, je dis bien de l'homme déchu, ce monde-là n'honore absolument pas Dieu, jamais. Des millions d'hommes et de femmes se réclamant pourtant de son nom, cela est vrai, et lui rendent parfois hommage uniquement pour la forme, mais un simple test démontrera que Dieu est en réalité très peu honoré parmi eux. Qu'un homme, quel qu'il soit mis à l'épreuve sur la question de savoir qui est au-dessus de toute chose, et l'on mettra à découvert sa position réelle. Quand la force à faire un choix, voyez-vous, que on peut dire que on le force, l'homme, par exemple, à faire un choix entre Dieu et l'argent, ou par exemple, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'ambition personnelle, entre Dieu et lui-même, entre Dieu et l'amour de quelqu'un. Et Dieu, là, il prendra chaque fois uniquement le second rang. Oui, l'homme placera ces choses au-dessus de Dieu. Bien que l'homme puisse s'en défendre, la preuve tient aux différents choix qu'il fait l'homme, jour après jour, tout au long de sa vie. Exalté sois-tu, est-il dit. Et le langage de l'expérience spirituelle victorieuse. Je répète, exalté sois-tu, ô Dieu. C'est le langage de l'expérience spirituelle qui est victorieuse. C'est, au fond, une petite clé pour ouvrir la porte au grand trésor de la grâce. Cela est central à la vie de Dieu dans l'âme. Le jour où l'homme qui recherche Dieu atteint un point où vie et mot s'harmonisent pour dire continuellement « Exalté sois-tu, ô Seigneur, alors un grand nombre de problèmes mineurs, vont être résolus sur le champ. Sa vie de chrétien, elle cesse d'être la chose compliquée qu'elle était auparavant, et elle devient l'essence même de la simplicité. Par l'exercice de sa volonté, l'homme a fixé sa course et il restera sur cette route comme guidé par un pilote automatique. Si un vent adverse lui fait un instant perdre son chemin, il le retrouvera certainement comme par un penchant secret de l'âme. Les mouvements cachés de l'esprit travaillent en sa faveur et les étoiles dans leur course. Ils luttent pour lui car il a fait face à tous les problèmes fondamentaux de sa vie et tout le reste devra suivre. Que personne ne s'imagine perdre de sa dignité d'homme en remettant de plein gré toute sa vie à Dieu. Car en faisant cela, il ne se dégrade pas en tant qu'homme, mais il trouve plutôt sa juste place, sa place d'honneur en qualité de créature faite à l'image de son Créateur. Sa profonde disgrâce réside dans sa maladie morale, dans son usurpation anormale de la place qui devient uniquement et qui revient, je veux dire, uniquement à Dieu. Il fera donc preuve d'honneur en restituant ce trône qui a été usurpé, en exaltant Dieu au-dessus de tout. L'homme voit son honneur à lui exalter au plus haut. Oh oui, voyez-vous, quiconque serait hésitant à soumettre sa volonté à la volonté d'un autre devrait se rappeler les mots de Jésus. Jésus a dit, quiconque pèche est esclave du péché. Nous devons, par nécessité, être serviteurs de quelqu'un, soit de Dieu, soit du péché, c'est-à-dire de Satan. Le pécheur se glorifie de son indépendance, oubliant complètement qu'il est le faible esclave du péché qui gouverne ses membres. L'homme qui se soumet à Christ échange un tyran cruel qui est Satan pour un maître qui est doux et humble de cœur, dont le joug est doux et que le fardeau est léger. Façonnés comme nous l'avons été à l'image de Dieu, nous trouvons à peine étrange de trouver notre Dieu comme notre tout. Dieu fut notre demeure originelle et notre cœur ne peut que se sentir chez lui quand il entre à nouveau dans la belle demeure d'autrefois. J'espère que ceci est bien clair. Il y a une logique derrière la revendication de Dieu d'occuper la toute première place. Cette place lui revient de droit. Elle lui revient de droit sur la terre et dans les cieux. Quand nous prenons pour nous-mêmes la place qui est la sienne, tout le tracé de notre vie va de travers. Rien ne rétablira ou ne pourra rétablir le bon ordre jusqu'à ce que notre cœur prenne la grande décision. Dieu sera exalté dans ma vie par-dessus tout. C'est ce que il m'est demandé. Voyez-vous, ceux qui m'honoreront, Est-il dit, eh bien, je les honorerai. C'est ce qu'a dit un jour Dieu à un prêtre d'Israël. Et cette ancienne loi du royaume reste valable aujourd'hui, malgré le passage du temps et les grâces nouvelles. Voyez-vous, toute la Sainte Bible et chaque page de l'histoire proclamant la pérennité de cette loi qui dit « Celui qui me servira et qui servira le Père m'honorera ». C'est ce que disait notre Seigneur Jésus, liant l'Ancien et le Nouveau Testament et révélant ainsi l'unité essentielle de ses voies envers les hommes. Parfois le meilleur moyen de voir une chose est de regarder son contraire. Élie, et non pas le fameux prophète Élie, simplement E-L-I, Élie et ses fils ont été placés dans la prêtrise à la condition qu'ils honorent Dieu dans leur vie et dans leur ministère. Or, cependant, ils ont failli à leur engagement, et Dieu a envoyé Samuel pour leur en annoncer les conséquences. Inconnue d'Élie, cette loi d'honneur réciproque a fonctionné secrètement pendant tout ce temps-là. Et maintenant a sonné l'heure du jugement. Hophni et Pinéa, les prêtres dégénérés, sont tombés sur le champ de bataille. La femme de Hophni, elle meurt en couche. Israël a dû fuir devant ses ennemis. L'arche de Dieu a été prise par les Philistins et le vieil Élie tombe à la renverse. Il se brise la nuque et il meurt. Ainsi, une tragédie totale et terrible s'ensuivit parce que Élie n'avait pas su honorer Dieu. Opposez maintenant à cela presque n'importe quel personnage de la Bible qui essaya honnêtement de glorifier Dieu au cours de son pèlerinage terrestre. Voyez comment Dieu ferma les yeux sur ses faiblesses et comment il passa sur ses échecs en déversant sur son serviteur grâce et bénédiction sans pareil. Prenons par exemple Abraham, Jacob, David, Daniel, Élisée, ou qui que vous voulez. Les honneurs se succédèrent comme la moisson a suivi la sentence. Ces hommes de Dieu avaient résolu en leur cœur d'exalter Dieu par-dessus tout. Dieu acceptait leurs intentions comme un fait et agissait en conséquence. Non, 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 la perfection, elle n'existe pas. Mais une intention sainte, ça faisait toute la différence. On a pu voir cette loi à l'état pur et parfait dans notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son humble humanité, il s'est humilié et joyeusement il a rendu toute la gloire à son Père céleste. Jésus ne chercha pas son propre honneur, mais l'honneur de Dieu son Père qui l'avait envoyé. Il a dit, « Si je me glorifie moi-même, c'est ce qu'il a dit à une occasion, eh bien ma gloire, elle n'est rien, car c'est mon Père qui me glorifie. » Les pharisiens, pétris d'orgueil, s'étaient tellement éloignés de cette loi qu'ils ne pouvaient comprendre que quelqu'un puisse honorer Dieu à son propre détriment. « Moi, j'honore mon Père, leur dit Jésus, mais vous, vous m'outragez. » Une autre parole de Jésus, une parole très gênante, a été dite sous la forme d'une question. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient uniquement de Dieu seul ?» Si je comprends cela correctement, Christ enseignait ici cette doctrine alarmante selon laquelle le désir d'être honoré parmi les hommes rend la foi absolument impossible. Est-ce ce péché-là qui serait à la base de l'incrédulité religieuse? Se pourrait-il que les difficultés intellectuelles que les hommes accusent d'être la cause de leur incapacité à croire ne soient que des écrans de fumée uniquement pour calmer la cause réelle qui se trouve dans l'arrière-plan? Est-ce cette soif d'honneur qui a fait de ces hommes des pharisiens? Est-ce cela le secret qui se cache derrière la bonne conscience religieuse et derrière l'adoration vide? Je pense que c'est peut-être possible, ou même plausible. Voyez-vous, tout le cours de notre vie est perturbé à cause de notre incapacité de considérer Dieu tel qu'il est. Nous, nous exaltons nous-mêmes au lieu d'exalter Dieu, et la malédiction s'ensuit. Dans notre désir de rechercher Dieu, gardons toujours présent à l'esprit que Dieu a aussi un désir, et ce désir se porte vers les fils des hommes, et plus particulièrement vers les fils des hommes qui prendront la décision une fois pour toutes de l'exalter par-dessus tout. De tels hommes sont précieux aux yeux de Dieu, plus que tous les trésors de la terre et de la mer. En eux, Dieu trouve un théâtre d'opération où il peut montrer sa bonté débordante envers nous en Jésus-Christ. Avec eux, Dieu peut marcher librement envers eux. Il peut agir en sa qualité de Dieu. En parlant ainsi, je n'ai qu'une crainte, c'est que je risque de convaincre l'intelligence avant que Dieu ne puisse gagner votre cœur. Cette position où l'on met Dieu au-dessus de tout, n'est pas facile à prendre. L'intelligence, elle peut l'approuver, sans toutefois avoir le consentement de la volonté pour l'appliquer, alors que l'imagination court en tête pour honorer Dieu. Il se peut que la volonté traîne en arrière et l'homme ne peut jamais devenir, il ne peut jamais deviner combien son cœur est vraiment, hélas, tellement divisé. Oui, l'homme tout entier doit prendre la décision avant que le cœur ne puisse connaître une réelle satisfaction. Dieu, il nous veut d'une seule pièce, et il ne prendra point de repos avant qu'il ne nous possède tout entier. Aucune partie quelconque de l'homme ne pourra faire l'affaire. Alors prions, prions pour cela en détail. Nous jetons, s'il vous plaît, aux pieds de Dieu et pensons vraiment à tout ce que nous disons. Celui qui prie ainsi, avec sincérité, n'a pas besoin d'attendre longtemps pour recevoir les preuves de l'acceptation divine. Dieu dévoilera sa gloire devant les yeux de son serviteur et il placera tous ses trésors à la disposition d'un tel serviteur, car il sait que son honneur est sauf entre de telles mains qui ont été consacrées. Chers amis, prions maintenant. Ô Dieu, sois exalté au-dessus de toutes mes possessions. Aucun des trésors de la terre ne me semblera cher si toi seul tu es glorifié dans ma vie. Sois donc glorifié au-dessus de mes amitiés. Je veux que tu sois par-dessus tout, même si je dois rester seul et dépouillé au centre de la terre, alors sois glorifié au-dessus de mon bien-être, même si cela implique la perte de mon confort corporel et la charge d'une lourde croix. Je garderai ce serment fait devant toi en ce jour. Oui, sois glorifié au-dessus de ma réputation. Rends-moi ambitieux pour te plaire, même si en conséquence je dois sombrer dans l'obscurité et que mon nom doit être oublié comme un rêve. Élève-toi, ô Éternel, à ta véritable place de gloire, au-dessus de mes ambitions terrestres, au-dessus de ce que j'aime, de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas, au-dessus de ma famille, au-dessus de ma santé, au-dessus de ma vie même. Oui, laisse-moi décroître, afin que tu puisses croître en moi. Laisse-moi sombrer, afin que tu puisses t'élever. Permets-moi de te porter à la vue de tous, comme tu t'es laissé porter à Jérusalem, sur le dos d'une humble petite bête, c'est-à-dire d'un ânon, le petit d'une ânesse. Et laisse-moi entendre les enfants te crier haut et fort, Hosanna, au plus haut des cieux. Amen. Chers amis, maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous, pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien. Voici. Seigneur, mets en nous ta paix. Oui, ta paix merveilleuse. Oui, vous qui êtes ses enfants, cette paix, elle surpasse effectivement toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Et c'est une paix que personne ne saurait vous ravir. Aucun homme n'a le pouvoir d'y toucher. Mais vous pouvez vous pouvez ouvrir la porte au monde et le laisser entrer avec tous ses soucis et avec toutes ses distractions. Et oui, vous pouvez ouvrir votre porte à la crainte et au découragement. Vous pouvez l'ouvrir aux voleurs qui se jettent sur votre paix pour l'emporter. Prenez donc une bonne foi, la ferme résolution de ne permettre à rien ni à personne de troubler votre paix, de troubler votre repos qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Quand elle est compromise, alors cessez toute activité, tout commerce avec les autres, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Ne tolérez pas que ceux au contact desquels vous vivez jettent le trouble dans votre cœur et dans votre esprit. Que rien de ce qui surgit ne puisse vous ôter votre paix, ne fût-ce qu'un seul instant. Aucun contretemps, aucun orage, aucune adversité. Voyez plutôt dans les difficultés qui se présentent des occasions de vous établir plus fortement dans cette paix. Que votre harmonie intérieure, oui, celle que vous tenez du Père lui-même en Jésus-Christ, ne soit détruite par aucune activité ni par aucune déconvenue. Et maintenant, chers amis, j'aimerais vous transmettre quelques chants d'un lointain passé, 1952. C'est très, très vieux. J'avais enregistré ça quand j'étais un jeune homme en Angleterre. Bien sûr, depuis, les paroles ne sont peut-être plus aussi nettes, mais vous recevrez tout de même quelque chose par le Saint-Esprit. Donc, maintenant, j'essaie de vous traduire quelques chants.
Travel through the land, wait for the light to shine. He may be in trouble and may need a helping hand. Wait for the light to shine. Wait for the light to shine. Wait for the light.
give me that old-time religion. Give me that old-time religion. 'Cause it's good enough for me. that she made.